Chapitre 5. Lisa. Paul Pavlovitch n'avait pas du tout songé à se sauver, et Dieu sait pourquoi Veltchalinov lui avait fait cette question, probablement parce qu'il avait lui-même perdu la tête. À la première demande qu'il fit dans une petite boutique de Pokrov, on lui indiqua l'hôtel à deux pas dans une ruelle. À l'hôtel, on lui dit que M. Troussotsky occupait un appartement meublé chez Maria Sisoevna dans le pavillon au fond de la cour. Tandis qu'il montait l'escalier de pierre, étroit et malpropre, du pavillon jusqu'au second étage, il entendit des pleurs. C'étaient des pleurs d'enfant, d'un enfant de 7 à 8 ans. La voix était plaintive. On entendait des sanglots étouffés qui éclataient, et en même temps des bruits de pas, des cris qu'on cherchait à assourdir sans y réussir, et la voix rauque d'un homme. L'homme s'efforçait, semblait-il, de calmer l'enfant, faisant tout pour qu'on ne l'entendît pas pleurer, mais faisait lui-même plus de bruit que lui. Ses éclats de voix étaient rudes. L'enfant paraissait demander grâce. Veltchalinov s'engagea dans un étroit couloir sur lequel s'ouvraient deux portes de chaque côté. Il rencontra une femme très grande, très grosse, en toilette négligée, et lui demanda Pavel Pavlovitch. Elle indiqua du doigt la porte d'où venaient les sanglots. La figure large et rougeaude de cette femme de 40 ans exprimait l'indignation. « Cela l'amuse !» grommela-t-elle en se dirigeant vers l'escalier. Veltchalinov allait frapper à la porte, mais il se ravisa, ouvrit et entra. La chambre était petite, encombrée de meubles simples en bois peint. Pavel Pavlovitch était debout, au milieu, vêtu à demi, sans gilet, sans veste, la figure rouge et bouleversée. Au moyen de cris, de gestes, de coups peut-être même, sembla-t-il à Veltchalinov, il cherchait à calmer une fillette de 8 ans, habillée pauvrement mais en demoiselle, d'une robe courte de laine noire. L'enfant paraissait être en pleine crise nerveuse, sanglotait convulsivement, tordait ses mains vers Pavel Pavlovitch comme s'il voulait l'embrasser, le supplier, l'attendrir. En un clin d'œil, la scène changea. À la vue de l'étranger, la petite jeta un cri et se sauva dans une chambrette attenante. Pavel Pavlovitch, soudain calmé, s'épanouit tout entier dans un sourire, exactement celui qu'il avait eu la nuit précédente, lorsque brusquement Veltchalinov lui avait ouvert la porte. « Alexis Ivanovitch !» s'écria-t-il sur le ton de la plus profonde surprise. « Mais comment aurais-je pu m'attendre ?»« Entrez donc, je vous en prie. Ici, sur le divan, ou plutôt non, ici dans le fauteuil. Oh, mais comme je suis !» Et il s'embrassa de passer sa veste en oubliant de mettre son gilet. Mais non, pas de cérémonie, restez donc comme vous êtes. Et Veltchalinov s'assit sur une chaise. Mais non, laissez-moi donc faire. Allons, comme cela, je suis un peu plus présentable. Mais pourquoi vous mettez-vous là, dans ce coin? Tenez, dans le fauteuil, ici, près de la table. Oh, je ne m'attendais pas. Il s'assit sur une chaise de paille, tout près de Veltchalinov, pour le voir bien en face. Pourquoi ne m'attendiez-vous pas, ne vous avais-je pas dit positivement cette nuit que je viendrais à cette heure-ci? Oui, mais je croyais que vous ne viendriez pas. Et puis au réveil, plus je me rappelais tout ce qui s'était passé, plus je désespérais de vous revoir jamais. Veltchalinov jeta un coup d'œil autour de lui. La chambre était dans un complet désordre, le lit défait, des vêtements jetés au hasard, sur la table, des verres où l'on avait bu du café, des miettes de pain, une bouteille de champagne débouchée, encore à moitié pleine, un verre à côté. Il jeta un regard vers la chambrette voisine, tout y était silencieux. La petite s'était tue, ne bougeait pas. « Comment, vous en êtes là maintenant ?» fit Veltchalinov en montrant le champagne. « Oh, je n'ai pas tout bu !» murmura Pavel Pavlovitch, tout confus. Allons, vous êtes bien changé. Oui, une bien mauvaise habitude. Je vous assure, c'est depuis ce moment-là. Oh, je ne mens pas. Je ne puis pas me retenir. Mais soyez tranquille, Alexis Ivanovitch. Je ne suis pas ivre en ce moment. Je ne dirai pas de bêtises, comme cette nuit, chez vous. Je vous jure, tout cela, c'est depuis ce moment-là. Ah, si quelqu'un m'avait dit, il y a seulement 6 mois, que je changerais, et m'avait montré dans un miroir celui que je suis maintenant, je ne l'aurais pas cru, certes. Mais vous étiez donc ivre, alors, cette nuit? Oui, confessa à demi-voix Pavel Pavlovitch, confus, en baissant les yeux. Voyez-vous, je n'étais plus tout à fait ivre, mais je l'avais été. Il faut que je vous explique, parce que après l'ivresse, je deviens mauvais. Lorsque je sors de l'ivresse, je suis méchant, je suis comme fou, et je souffre terriblement. C'est peut-être le chagrin qui me fait boire. Il peut m'arriver alors de dire bien des choses stupides et blessantes. J'ai dû vous paraître bien bizarre cette nuit. Vous ne vous rappelez pas? Comment je ne me rappelle pas, mais je me rappelle fort bien. Voyez-vous, Pavel Petrovitch, moi aussi j'ai réfléchi. Et il faut que je vous dise, enfin, j'ai été avec vous cette nuit un peu vif, un peu trop impatient, je le confesse. Il m'arrive parfois de ne pas me sentir très bien. Et votre visite inattendue, de nuit. Ah oui, de nuit, fit Pavel Pavlovitch, secouant la tête, comme s'il se condamnait lui-même. Comment cela a-t-il pu m'arriver? Mais certainement, je ne serais pas entré chez vous pour rien au monde. Si vous ne m'aviez pas ouvert, je serais parti. J'étais déjà venu chez vous, Alexis Ivanovitch, il y a 8 jours. Je ne vous ai pas trouvé. Peut-être ne serais-je plus revenu. Je suis un peu fier, Alexis Ivanovitch, bien que je sache ma situation. Nous nous sommes croisés dans la rue et je me disais chaque fois, voici qu'il ne me reconnaît pas, voici qu'il se détourne. C'est beaucoup le vent et je ne me décidais pas à vous aborder. Quant à cette nuit, j'avais oublié l'heure. Et tout cela, c'est la faute de ceci, il montrait la bouteille, et de mes sentiments. C'est bête, c'est très bête. Et si vous n'étiez pas comme vous êtes, puisque vous venez tout de même, après ma conduite de cette nuit, un regard pour le passé, j'aurais perdu tout espoir de retrouver jamais votre amitié. Petchaninov écoutait avec attention. Cet homme parlait sincèrement, lui semblait-il, même avec quelque dignité. Et pourtant, il n'avait aucune confiance. « Dites-moi, Pavel Pavlovitch, vous n'êtes donc pas seul ici? Qu'est-ce donc que cette petite fille qui était là quand je suis entré ?» Pavel Pavlovitch haussa les sourcils d'un air surpris, puis avec un regard franc et aimable, « Comment ?» Cette petite fille, mais c'est Lisa, fit-il en souriant. Quelle Lisa? Balbutia Velchaninov. Et tout à coup, quelque chose remua en lui. L'impression fut soudaine. À son entrée, à la vue de l'enfant, il avait été un peu surpris, mais il n'avait eu aucun pressentiment, aucune idée. Mais notre Lisa? « Notre fille Lisa ?» insista Pavel Pavlovitch, toujours souriant. « Comment votre fille ? Mais Natalia, enfin, feu Natalia Vassilievna, aurait donc eu des enfants ?» demanda Vletchaninov d'une voix presque étranglée, sourde, mais calme. « Mais certainement. Ah, mais mon Dieu, c'est vrai, vous ne pouviez pas le savoir. » « Où ai-je donc la tête? C'est après votre départ que le bon Dieu nous a favorisés. Pavel Pavlovitch s'agita sur sa chaise, un peu ému, mais toujours aimable. Je n'ai rien su, dit Valchaninov en devenant très pâle. En effet, comment l'auriez-vous su? Reprit Pavel Pavlovitch d'une voix attendrie. Nous avions perdu tout espoir, la défunte et moi, vous vous rappelez bien. Et voilà que tout à coup, le bon Dieu nous a bénis. Ce que j'ai éprouvé, il est seul à le savoir. C'est arrivé un an, juste après votre départ. Non, pas tout à fait un an. Attendez, voyons si je me trompe, vous êtes parti en octobre ou même en novembre. Ah, je suis parti de T au commencement de septembre, le 12 septembre, je me rappelle très bien. Oui, vraiment, en septembre. Oh, mais où donc avais-je la tête? Fit Pavel Pavlovitch très surpris. Enfin, si c'est bien cela, voyons. Vous êtes parti le 12 septembre et Lisa est née le 8 mai. Cela fait donc septembre, octobre. Tom, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, le 8 mois après votre départ, à peu près. Et si vous saviez comme la défunte. Faites-la moi voir, amenez-la moi, interrompit Vlatchaninov d'une voix étouffée. Tout de suite, à l'instant même, fit vivement Pavel Pavlovitch, sans échever sa phrase. Et aussitôt, il passa dans la chambrette où se trouvait Lisa. 3 ou 4 minutes s'écoulèrent. Dans la chambrette, on chuchotait vivement tout bas. Puis on entendit la voix de la petite fille. Oh, elle supplie qu'on la laisse tranquille, pensa Velchaninov. Enfin, ils parurent. Elle est toute gênée, dit Pavel Pavlovitch. Elle est si timide, si fière. Tout le portrait de la défunte. Lisa entra, les yeux secs et baissés. Son père l'amena par la main. C'était une fillette élancée, mince et très jolie. Elle leva vivement ses grands yeux bleus sur l'étranger, avec curiosité, le regarda sérieusement, puis aussitôt baissa les yeux. Il y avait dans son regard la gravité qu'ont les enfants lorsque, seuls en présence de l'inconnu, ils se réfugient dans un coin et de là observent, d'un air défiant, l'homme qu'ils n'ont jamais vu. Mais peut-être y avait-il encore dans ce regard une autre expression, autre chose que cette pensée d'enfant, au moins Valchaninov crut-il le remarquer. Le père l'amena par la main jusqu'à lui. Regarde, voici un oncle qui a connu maman. Il nous aimait bien. Il faut pas avoir peur de lui. Donne-lui la main. L'enfant s'inclina un peu et tendit timidement la main. Natalia Vassilievna ne voulait pas qu'elle apprît à faire la révérence. Elle lui a appris à saluer comme cela, à l'anglaise, en s'inclinant légèrement et en tendant la main, expliqua-t-il à Velchaninov en le regardant fixement. Vetchaninov se sentait surveillé, mais il ne cherchait même plus à dissimuler son trouble. Il restait assis, immobile, tenant dans sa main la main de Lisa et regardant avec attention l'enfant. Mais Lisa était absorbée, oubliait sa main dans la main de l'étranger et ne quittait pas son père des yeux. Elle écoutait d'un air craintif tout ce qu'il disait. Vetchaninov reconnut tout de suite ses grands yeux bleus, mais ce qui le frappait le plus, c'était l'étonnante et très délicate blancheur de son visage et la couleur de ses cheveux. C'est à ces indices qu'il se reconnaissait en elle. La forme du visage et la ligne des lèvres, au contraire, rappelaient nettement Natalia Vassilievna. Cependant, Pavel Pavlovitch s'était mis à raconter quelque histoire avec beaucoup de chaleur et de sentiment, Mais Velchaninoff ne l'entendait pas. Il ne saisit que la dernière phrase. « Aussi, Alexis Ivanovitch, vous ne pouvez vous figurer notre joie quand le bon Dieu nous a fait ce présent. Du jour qu'elle est née, elle a été tout pour moi, et je me disais que si Dieu me prenait mon bonheur, Lisa au moins me resterait. Cela au moins, j'en étais sûr. » « Et Natalia Vassilievna ?» demanda Velchaninoff. « Natalia Vassilievna, grimaça Pavel Pavlovitch, vous la connaissiez bien. Vous vous rappelez, elle n'avait pas beaucoup parlé. C'est seulement à son lit de mort. Mais alors, elle a tout dit. Oui, le jour qui a précédé sa mort, voilà que tout à coup, elle s'énerve, elle se fâche. Elle crie qu'avec tous ses médicaments, on veut la tuer. » Qu'elle n'a qu'une simple fièvre, que nos deux médecins n'y entendent rien, que Koch, vous vous rappelez le médecin militaire, ce vieillard, la remettra sur pied en 15 jours. Encore 5 heures avant de mourir, elle se rappela que dans 3 semaines, il faudrait aller féliciter à la campagne sa tante, la marraine de Lisa, pour sa fête. Velchaninoff se leva brusquement, toujours sans lâcher la main de Lisa. Dans ce regard que l'enfant tenait attaché sur son père, il lui semblait voir une espèce de reproche. « Elle n'est pas malade ?» demanda-t-il vivement d'un air étrange. « Malade ? Je ne crois pas, mais l'état de mes affaires, » fit Pavel Pavlovitch, avec une amertume inquiète. Et puis l'enfant est bizarre, nerveuse. Après la mort de sa mère, elle a été malade 15 jours. C'est de l'hystérie. C'était des sanglots quand vous êtes arrivés. Tu entends, Lisa, tu entends? Et pourquoi? Toujours la même raison. Parce que je sors, que je la laisse seule et que je ne l'aime plus comme du temps de sa maman. C'est son grand reproche. Et c'est avec cette idée absurde qu'elle se monte la tête quand elle devrait ne songer qu'à ses jouets. Il est vrai qu'ici, elle n'a personne avec qui jouer. Ah, alors, vous êtes ici tout seul, vous deux? Oui, tout à fait seul. Il y a une femme qui vient faire le ménage une fois par jour. Et vous sortez... Et vous la laissez comme cela, toute seule. Que voulez-vous que j'y fasse? Tenez, hier, je suis sorti et je l'ai enfermée à clé, là, dans cette chambrette. Et c'est pour cela que nous avons eu aujourd'hui tant de larmes. Mais voyons, pouvais-je faire autrement? Jugez vous-même. Il y a 2 jours, elle est descendue sans moi dans la cour, et un gamin lui a lancé une pierre à la tête. Alors elle s'est mise à pleurer, et à se jeter sur tous les gens qui étaient dans la cour pour leur demander où j'étais. Comme c'est agréable. Et moi qui m'en vais pour 1 heure, qui rentre le lendemain matin, comme j'ai fait cette nuit. Et la propriétaire, qui a été obligée de lui ouvrir parce que je n'étais pas là, et de faire venir le serrurier. Vous trouvez que ce n'est pas une honte? Je me fais l'effet d'un monstre. Et tout cela parce que je n'ai pas ma tête à moi. Papa, fit la petite d'une voix craintive et inquiète. Allons bon encore, tu recommences. Mais qu'est-ce que je t'ai dit tantôt? Oh, je ne le ferai plus, je ne le ferai plus, cria Lisa, terrifiée, se tordant les mains. Voyons, vous ne pouvez pas continuer à vivre ainsi, intervint soudain Velchaninoff, avec impatience, d'une voix forte. Voyons, voyons, vous avez de la fortune. Comment habitez-vous un pareil pavillon, un pareil taudis? Oh, ce pavillon, oh, mais nous allons partir, peut-être dans 8 jours. Et nous dépensons, même comme cela, beaucoup d'argent. Et on a beau avoir quelque fortune. C'est bien, interrompit Velchaninoff, avec une impatience croissante. et son ton signifiait « C'est inutile, je sais d'avance tout ce que tu vas me dire et je sais tout ce que cela vaut. Écoutez, je vais vous proposer quelque chose. Vous venez de dire que vous comptez vous en aller dans 8 jours, mettons 15. Il y a ici une maison où je suis comme en famille, où je suis tout à fait chez moi depuis 20 ans. Ce sont les Pogoreltsev. Oui, Alexandre Pavlovitch Pogoreltsev, le conseiller intime. Il pourra vous être utile pour votre affaire. Ils sont maintenant à la campagne, ils ont une villa très confortable. Klavdia Petrovna Pogoreltseva est pour moi comme une sœur, comme une mère. Elle a 8 enfants, laissez-moi lui mener Lisa. Je le ferai moi-même pour ne pas perdre de temps. Ils l'accueilleront avec joie et la traiteront tout ce temps-là comme leur fille, leur propre fille. » Il était prodigieusement impatient et ne le dissimulait plus. « Oh, cela n'est pas possible !» fit Pavel Pavlovitch avec une grimace où Veslaninov vit de la malice et en le regardant au fond des yeux. « Pourquoi ? Pourquoi impossible ?»« Mais parce que je ne puis pas laisser partir l'enfant comme cela. »« Oh, je sais bien qu'avec un ami aussi sincère que vous, ce n'est pas cela, mais enfin, ce sont des gens du grand monde et je ne sais comment elle y serait reçue. Mais je vous ai dit pourtant que je suis reçu chez eux comme si c'était ma propre famille, » s'écria Veslaninov presque avec colère. « Klavdia Petrovna le recevra aussi bien que possible, sans un mot de moi, comme si c'était ma fille. Le diable vous emporte, vous savez bien vous-même que vous dites tout cela uniquement pour parler. » Il frappa du pied. « Et puis, reprit l'autre, est-ce que tout cela ne paraîtra pas bien singulier? Il faudra toujours que j'aille la voir, une fois ou l'autre. » Il ne faut pas qu'elle soit tout à fait sans son père, et comment irais-je, moi, dans une maison noble? Je vous dis que c'est une famille très simple, sans prétention, cria Veslaninov. Je vous dis qu'il y a beaucoup d'enfants. Elle renaîtra là-dedans. Je vous présenterai dès demain, si vous voulez. Même il faudra absolument que vous alliez les remercier. Nous irons tous les jours, si vous voulez. « Oui, mais c'est absurde. Et ce qui est exaspérant, c'est que vous savez vous-même que vos objections sont absurdes. Voyons, vous viendrez chez moi ce soir passer la nuit, et puis demain matin, nous partirons de manière à être là-bas à midi. »« Oh, mais vous me comblez, mais comment même passer la nuit chez vous ?» consentit avec attendrissement Pavel Pavlovitch. « C'est trop de bonté. » Et où est-elle, leur maison de campagne? À Lesnoye. Mais dans ce costume, j'ai une famille si distinguée, même à la campagne. Vraiment, vous me comprenez, le cœur d'un père. Peu importe le costume, elle est en deuil, elle ne peut mettre autre chose. La robe qu'elle a est parfaitement convenable. « Seulement du linge un peu plus frais, un fichu. » En effet, le fichu et le linge que l'on voyait laissaient fort à désirer. « Tout de suite, » fit Pavel Petrovitch avec empressement, « on va lui donner tout de suite le linge nécessaire. Il est chez Maria Sisoevna. »« Alors il faudra aller chercher une voiture. » fit Veslaninov, et très vite, si c'est possible. Mais un obstacle surgit. Lisa résista de toutes ses forces. Elle avait écouté avec terreur. Et si Veslaninov, tandis qu'il cherchait à persuader Pavel Pavlovitch, avait eu le temps de la regarder avec un peu d'attention, il aurait vu sur ses traits l'expression du plus profond désespoir. « Je ne dirai pas !» dit-elle énergiquement et gravement. « Voilà, vous voyez, tout à fait sa maman. »« Je ne suis pas comme maman !»« Je ne suis pas comme maman !» cria Lisa en tordant désespérément ses petites mains, comme si elle se défendait du reproche de ressembler à sa mère. « Papa, papa, si vous m'abandonnez !» Tout à coup, elle se retourna vers Verchlaninov, qui fut terrifié. « Et vous, si vous m'abandonnez, je... » Elle ne put en dire davantage. Pavel Pavlovitch l'avait saisie par la main et brutalement, avec colère, la traînait vers la chambrette. Il sortit de là, pendant quelques minutes, des chuchotements et des sanglots étouffés. Verchlaninov allait y pénétrer lui-même lorsque Pavel Pavlovitch revint et lui dit, avec un sourire contraint, qu'elle serait tout de suite prête à partir. Verchlaninov fit effort pour ne pas le regarder et détourna les yeux. Maria Sizoevna entra. C'était la femme qu'il avait croisée dans le corridor. Elle apportait du linge qu'elle disposa dans un joli petit sac pour Lisa. « Alors, c'est vous, petit père, qui emmenez l'enfant ?» dit-elle en s'adressant à Verchlaninov. « Vous avez une famille ?» « C'est très bien, petit père, ce que vous faites, elle est très douce. Vous la sauvez d'un enfer. »« Allons, Maria Sizolevna, grogna Pavel Pavlovitch. Eh bien quoi? Est-ce que c'est pas un enfer ici? Est-ce que c'est pas une honte de se conduire comme vous faites devant une enfant qui est d'âge à comprendre? Vous voulez une voiture, petit père, pour l'esnoyer, n'est-ce pas? Oui, oui. Eh bien donc, bon voyage !» Lisa sortit, toute pâle, les yeux baissés, et prit le sac. Elle n'eut pas un regard pour Verchlaninov. Elle se contenait. Elle ne se jeta pas, comme tout à l'heure, dans les bras de son père pour lui dire adieu. Il était clair qu'elle ne voulait pas même le regarder. Le père l'embrassa posément sur le front et la caressa. Les lèvres de l'enfant se serraient, son menton trembla, elle ne levait toujours pas les yeux vers son père. Pavel Pavlovitch pâlit, ses mains tremblèrent. Verchlaninov s'en aperçut, bien qu'il se contraignît de tout son effort pour ne pas le regarder. Il n'avait qu'un désir, partir au plus vite. « Tout cela, ce n'est pas ma faute, pensait-il. Il fallait bien que cela arrivât. » Ils descendirent. Maria Sizoevna embrassa Lisa, et c'est alors seulement quand déjà elle était dans la voiture que Lisa leva les yeux sur son père, joignit les mains et poussa un cri. Encore un moment, et elle se serait jetée hors de la voiture pour courir à lui, mais déjà les chevaux étaient en marche.